Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous encourage à accueillir vos émotions pour mieux comprendre votre tempérament sensible. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle prépondérant des émotions pour les personnes hypersensibles et des dangers que l'on court lorsque l'équilibre entre les différentes émotions est perdu. J'illustrerai ce dernier point par un exemple tiré de mon vécu. Mais avant ça, un message important. Dans mon dernier podcast sur la relation à l'argent, j'ai mis en place un lien PayPal pour que les personnes qui le souhaitent puissent contribuer financièrement à mon travail. Je tenais à remercier les auditeurs qui m'ont fait un don entre-temps. Il s'agit de Tricia, David, Sophie, Nadia et Anaïg, ou Aneg, pardonnez-moi si je prononce mal votre prénom. Je vous renouvelle à tous ma gratitude. Votre soutien m'est précieux. Grâce à vos dons, j'ai pu investir dans une formation sur Pinterest que je suis en train de développer. Cela devrait me permettre d'avoir plus de trafic vers mon site d'ici 6 à 12 mois. J'ai aussi pu moi-même faire un don pour le développeur d'un outil que j'utilise sur mon site qui est disponible gratuitement et qui m'est fort utile. Je souhaite également remercier Maria86 qui a laissé un commentaire en novembre dernier que je n'avais pas vu. Maria écrit « Je ne sais pas si je suis hypersensible, mais je me qualifierais de très sensible, y compris dans mes sens particulièrement développés, ouïe, odorat et vue notamment. Votre construction, le fait de reposer les définitions et les concepts, sont clairs et objectifs, et ça fait du bien. Pas de culpabilité, mais des responsabilités, saines et sereines si possible. » L'estime de soi et la confiance en soi se travaillent tous les jours, qui que l'on soit et quoi que l'on fasse. J'ai de bonnes bases et je suis régulièrement ébranlée. Vos podcasts m'aident actuellement à me recentrer et à me réaffirmer. Merci à vous, Axel. Merci à vous, Maria, d'avoir pris le temps de laisser ce message. Cela me fait toujours plaisir de savoir que mon contenu peut aider des personnes dans leur mieux-être. J'ai reçu dernièrement une remarque d'Emmanuel sur le son de la bande musicale qui était un peu fort par rapport à ma voix. Je vais essayer de corriger ça dans la post-production de l'épisode d'aujourd'hui. Vous me direz, Emmanuel, si c'est plus agréable à écouter. À présent, on passe à l'épisode du jour. Les personnes hypersensibles ont quelques ressemblances et beaucoup de différences. Que l'hypersensibilité soit innée ou acquise, elle est aussi étroitement liée à l'histoire personnelle de chacun. Elle se manifeste donc de différentes façons. Mais on peut constater un point commun évident, une forte émotivité, qu'elle soit exprimée ou pas. Le rôle essentiel des émotions. Le terme d'émotion négative, et je mets des gros guillemets même si vous ne les voyez pas sur émotion négative, ce terme donc, que l'on utilise par simplification de langage, désigne les émotions qui nous font ressentir un inconfort plus ou moins important. Parfois, on survalorise les émotions positives, entre guillemets également, et on finit par penser que les émotions négatives sont simplement nuisibles et qu'il faut tout faire pour ne pas les ressentir. Ce n'est absolument pas ce que je pense et ce que je préconise. Toutes les émotions sont utiles. Toutes les émotions sont utiles. Il ne s'agit en aucun cas de rejeter celles qui sont désagréables. Un débordement d'émotions pénibles nous montre juste qu'il y a un problème à régler dans notre vie. Rappelons que les émotions considérées comme négatives sont essentielles à notre survie. J'ai évoqué dans différents contenus l'émotion d'anxiété et le rôle important qu'elle joue, mais il en est ainsi de toutes les émotions. Si la colère n'existait pas, nous serions incapables de nous défendre ou de protéger les personnes auxquelles nous tenons. Sans la honte et la culpabilité, chacun se laisserait aller à ses pulsions. Notre monde ressemblerait au film de science-fiction Mad Max, où la loi du plus fort est dominante. C'est lorsqu'un déséquilibre survient qu'il faut s'inquiéter. Si les émotions négatives prennent le pas sur les émotions positives systématiquement et dans la durée, vous pouvez alors considérer qu'il s'agit d'un signal qui nécessite une action de votre part pour retrouver une harmonie émotionnelle. sans quoi vous mettez votre santé psychologique et physique en jeu. Le stress peut provoquer des maladies graves. On sait que la forte émotivité des personnes hypersensibles est causée par une réceptivité du système nerveux plus importante que la moyenne. Il existe heureusement des techniques pour apaiser l'hyperstimulation du système nerveux, telles que la cohérence cardiaque. Quoi qu'il en soit, cette réceptivité accrue amplifie les ressentis et les perceptions comme une caisse de résonance. Dans des situations vécues comme positives, cela va être plutôt agréable. L'enthousiasme, la joie, le dynamisme vont être décuplés. Mais dans des situations plus compliquées, des émotions vécues comme négatives et non exprimées vont devenir, sur le long terme, un terreau favorable au mauvais stress, à l'anxiété permanente, voire à l'angoisse. Or, un lien indiscutable a été établi entre le stress psychologique, le type d'attachement acquis dans le milieu familial durant l'enfance, et le cancer. Le professeur David Kayat, un éminent cancérologue, a reconnu lui-même, malgré le déni de beaucoup de ses confrères, ce lien entre les émotions négatives et le cancer. Les styles d'attachement affectif. Les humains sont des créatures sociales. La plupart, même parmi les plus solitaires, désirent avoir au moins quelques relations. La psychologie sociale a étudié, sous la forme des théories de l'attachement, ce qui constitue en général la première relation d'un individu, la relation mère-enfant. À travers ces théories, il a été révélé que différents styles d'attachement se forment avec la personne maternante. Que cette personne soit la mère biologique ou une autre personne, de la famille ou pas. On distingue principalement deux formes d'attachement. D'abord, l'attachement dit « sécure ». Dans cette forme d'attachement, l'enfant se sent en sécurité. Il fait confiance à la figure maternante. À l'inverse, l'attachement insécure. L'enfant se sent en insécurité. Il est inquiet, voire effrayé. La forme d'attachement est primordiale, car elle va déterminer le type de relation que l'enfant aura dans sa vie d'adulte. Quand je parle de déterminisme, il faut garder à l'esprit que rien n'est figé pour toujours. Grâce à la plasticité du cerveau, nous pouvons changer nos comportements et développer des relations satisfaisantes, même si nous avons subi un attachement insécure durant l'enfance. Mais ces deux types d'attachement ne donnent évidemment pas les mêmes chances d'équilibre relationnel dans la vie d'adulte. Une personne à l'attachement sécure est une personne capable d'exprimer librement ses émotions, de prendre en compte les besoins des autres sans sacrifier les siens, de solliciter de l'aide en cas de détresse, d'être disponible pour les autres, mais aussi de savoir dire non. Une telle personne serait prémunie contre le cancer. À l'inverse, une personne qui vit ses relations de manière anxieuse, qui souffre de dépendance affective, qui ne sait pas demander de l'aide, ce qu'on appelle autonomie compulsive, ou qui passe son temps à en donner dans le but inconscient d'être aimée, ce qu'on appelle aide compulsive, cette personne-là serait prédisposée à développer un cancer. Le stress relationnel est le premier facteur de stress psychologique. Ce stress psychologique a une influence directe sur le fonctionnement des organes et donc un impact sur la santé physique. Cet impact se traduit par la cancérisation des cellules. Bien sûr, cette cancérisation des cellules n'est pas causée à 100% par les émotions. Les facteurs sont multiples, et l'une des grandes causes est la pollution environnementale. La pollution de l'air, de l'eau, des aliments, les ondes, etc. Mais 60 ans d'études en psychologie, dont les rémissions spontanées de personnes pratiquant la libération émotionnelle, démontrent que le facteur émotionnel est prépondérant. Mon vécu du lien entre le cancer et le stress. Dans ma dernière expérience professionnelle en CDI, j'ai expérimenté le pouvoir psychosomatique des émotions. Je suis tombée gravement malade car je subissais un énorme stress à mon travail qui s'est accentué sur une longue période et que je n'ai vraiment pas vu venir. je décris longuement cette situation dans trois de mes contenus intitulés « Le burn-out des personnes sensibles ». Je ne vais donc pas revenir dans cet épisode sur les déclencheurs, mais plutôt sur les conséquences de cette situation. Avant cet épuisement physique et psychologique, j'étais pourtant une personne en parfaite santé. J'ai une alimentation équilibrée, à dominante végétarienne et biologique, je suis sportive, je ne fume pas, je bois de l'alcool plus que modérément, je profite de la nature et de la vie et je suis d'un naturel positif. En principe, je n'étais pas prédisposée à devenir une personne à risque. Mais le contexte anxiogène et toxique dans lequel je me trouvais et l'impact que cela a eu sur mes émotions a déclenché tout un tas de maux physiques. Rappelez-vous tout à l'heure que je vous disais que le stress relationnel était le premier stress psychologique. Je n'ai pas immédiatement compris le lien direct entre le contexte que je vivais et ces désagréments physiques, d'autant plus qu'ils ont évolué progressivement en intensité et sur une longue durée. J'ai longtemps pensé que je pourrais régler cette situation, et j'ai longtemps résisté mentalement. Alors mon corps s'est chargé de me rappeler à l'ordre en accumulant les problèmes de santé les uns après les autres. J'ai d'abord eu des maux de dos que j'ai mis sur le compte d'une mauvaise position à mon poste de travail. Mais ils se sont tellement intensifiés dans le temps que j'ai cru avoir un problème physique comme un disque vertébral déplacé. J'ai fait plusieurs examens qui n'ont révélé aucune anomalie. Il s'agissait seulement de tensions musculaires. J'ai consulté sur plusieurs séances un kinésithérapeute et j'ai aussi vu une masseuse pour essayer de dénouer mes tensions. Mais le soulagement n'était que ponctuel. Les maux de dos ont persisté. C'est ce qui se passe quand on essaye d'agir sur les symptômes et non sur les causes. Mais c'est facile pour moi, avec le recul aujourd'hui, de savoir cela. À ce moment-là, j'étais évidemment pas consciente de ce qui était en train de se passer. J'ai ensuite commencé à faire des insomnies, se manifestant sous la forme de réveils nocturnes. En plein milieu de la nuit, je me réveillais en sueur à la suite de cauchemars, puis des pensées anxieuses tournaient en boucle dans ma tête et me maintenaient éveillée pendant plusieurs heures, me tournant et me retournant dans mon lit. Un jour, j'ai constaté une perte de cheveux anormale sur ma brosse. C'est à ce moment qu'un signal d'alarme s'est enfin déclenché dans mon cerveau. J'ai fait différentes analyses médicales qui ont révélé que j'avais développé une lésion précancéreuse au dernier stade. Mon système immunitaire ayant été affaibli par l'excès de stress, les globules blancs n'avaient pas réussi à faire leur travail défensif. Le stade suivant de la lésion était le cancer. La seule solution, selon mon généraliste, mon spécialiste et le chirurgien que j'avais consulté, était l'ablation chirurgicale de l'organe touché. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la fin de mon histoire. Et rassurez-vous, cela illustrera que les émotions peuvent aussi nous guérir. Si le podcast vous aide, merci de laisser un commentaire sur iTunes que je pourrai lire la prochaine fois. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Je n'ai que 39 commentaires à l'heure actuelle et cela est insuffisant pour le référencement sur Apple Podcast. Donc j'attends une avalanche de commentaires pour la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.